En 2021, la Commune de Paris a 150 ans. Fréquence Paris Pluriel fête cet anniversaire avec plusieurs programmations spéciales. Nous commençons avec la diffusion d'un cycle d'émissions tous les samedis à 14h jusqu'au 5 mars. Aujourd'hui, une première émission qui situe le contexte à Paris depuis septembre 1870 jusqu'à la proclamation de la Commune le 28 mars 1871. Les récits de Louise Michel et Prosper-Olivier Lissagaray sont lus par Ariane Ascaride et en deuxième partie, l'historienne Laure Godino nous détaille la proclamation de la Commune. Bonne écoute.
Paris veut être libre.
Insurrectionnelle éclate.
La Commune est réclamée.
Vive la Commune !
Et 10 millions de bonne foi, quel est cet état social ? L'inégalité le ronge. L'insolidarité le tue. Des préjugés antisociaux l'étreignent dans leurs mains de fer. Les jouissances ne sont que pour le petit nombre qui les épuisent dans ce qu'elles ont de plus raffiné. La masse, la grande masse, languit dans la misère et l'ignorance. Le salaire de l'ouvrier ne lui donne pas le nécessaire.
À qui la responsabilité? Sinon à ceux qui nous gouvernent. Ils nous ont conduits jusqu'au bord de l'abîme.
En avant pour la République, pour la Commune et pour la liberté.
Place au peuple, place à la Commune.
Aux armes.
Le 2 septembre 1870, à la suite de la défaite de Sedan, l'empereur Napoléon III est fait prisonnier. C'est la fin de 20 ans d'empire. L'armée prussienne avance vers la capitale. Le 4 septembre, à l'annonce de la chute de Sedan, le peuple de Paris encercle le palais Bourbon et manifeste son opposition à l'empire. Jules Favre proclame la République et constitue un gouvernement de défense nationale sous l'autorité du général Trochu. Mais les Prussiens sont aux portes de Paris. L'hiver 1870 est particulièrement rude. Pendant que l'armée enchaîne les défaites, on meurt de faim dans la ville assiégée. Pour survivre, on mange de tout dans les faubourgs. Les ouvriers conservent la mémoire des insurrections de Canut à Lyon. Certains ont vécu les journées de juin 1848. D'autres, les nombreuses grèves qui marquent la fin de l'Empire. Dans Paris assiégé se créent de nombreux clubs révolutionnaires où les républicains dénoncent la conduite désastreuse de la guerre, prêchent la révolution sociale et l'émancipation des travailleurs. Le 31 octobre 1870, les bataillons républicains de la garde nationale prennent d'assaut l'hôtel de ville, destituent le gouvernement et proclament la Commune avant d'être encerclés par des gardes mobiles qui les contraignent à quitter le bâtiment. Tandis que le siège se prolonge, des milliers de Parisiens tombent au combat en novembre et décembre sans pourtant réussir à libérer la capitale de l'étreinte prussienne. Les Parisiens, exaspérés, n'ont plus aucune confiance dans les hommes du 4 septembre.
Le gouvernement qui, le 4 septembre, s'est chargé de la défense nationale, a-t-il rempli sa mission? Non. Nous sommes 500 000 combattants et 200 000 Prussiens nous étreignent. À qui la responsabilité? Sinon à ceux qui nous gouvernent. Ils n'ont pensé qu'à négocier au lieu de fondre des canons et de fabriquer des armes. Ils ont laissé en place les bonapartistes et mis en prison les républicains. Par leur lenteur, leur indécision, leur inertie, ils nous ont conduits jusqu'au bord de l'abîme. Ils n'ont su ni administrer, ni combattre. Place au peuple, place à la Commune.
Réunie le 12 février, au Grand Théâtre de Bordeaux, l'Assemblée nationale, qui comporte une majorité de monarchistes Élie Adolphe Thiers, chef du pouvoir exécutif de la République française. Le 19 février, Thiers part pour Versailles discuter avec Bismarck des conditions de paix. Il est convenu que 30 000 Prussiens occuperont le quartier des Champs-Élysées du 1er au 3 mars. Des patriotes et des gardes nationaux, craignant qu'on ne leur enlève leurs canons, les rassemblent sur les hauteurs de Montmartre.
24 février. Paris, anxieux pour sa liberté, se serrait depuis le matin autour de sa colonne révolutionnaire. Les bataillons défilaient, tambours et drapeaux en tête, couvrant la grille et le piédestal des couronnes d'immortels. Parfois, un délégué monté sur le socle haranguait le peuple qui répondait « Vive la République !» Un drapeau rouge fend la foule, s'engouffre dans le monument, reparaît à la balustrade. Un grand cri le salue, suivi d'un long silence. Un homme, escaladant la coupole, a l'audace d'aller fixer la hampe du drapeau dans la main du génie. Et aux acclamations frénétiques du peuple, on voit, pour la première fois depuis 48, le drapeau d'égalité ombrager cette place plus rouge encore que lui du sang de 1000 martyrs. Au Tivoli Vauxhall, rue de la Douane, 2000 délégués de bataillons de la garde nationale se réunissent pour dénoncer la capitulation et jurent de défendre la République. Ils ébauchent un projet de fédération et désignent un comité central chargé de prévenir toute tentative de coup d'État.
Le comité central de la garde nationale, nommé dans une assemblée générale de délégués représentant plus de 200 bataillons, a pour mission de protéger le pays mieux que n'ont pu le faire jusqu'alors les armées permanentes et à défendre par tous les moyens possibles la République menacée. Le comité central n'est pas un comité anonyme. Il est la réunion de mandataires, d'hommes libres qui connaissent leurs devoirs, affirment leurs droits.
Parisiens, l'ennemi va entrer dans Paris. Qu'il trouve fermés tous les édifices publics, que chacun de nous s'enferme dans sa demeure, que les rues restent complètement désertes.
1er mars, le sentiment de la population paraît ne pas s'opposer à l'entrée des Prussiens dans Paris. Il sera donc établi autour des quartiers que doit occuper l'ennemi une série de barricades destinées à isoler complètement cette partie de la ville. Les habitants de la région circonscrite devront l'évacuer immédiatement. La garde nationale formée en cordon tout autour veillera à ce que l'ennemi ainsi isolé ne puisse en aucune façon communiquer avec les parties retranchées de Paris. Le comité central engage la garde nationale à éviter toute agression qui serait le renversement immédiat de la République. Le comité central. Les Prussiens purent entrer le 1er mars. L'armée se retira rive gauche et la garde nationale, seule, sans trouble, sans provocation, sans faiblesse, exécuta son programme. Ce Paris qu'avait ressaisi le peuple n'était plus le Paris des nobles et des bourgeois du 30 mars 1815. Le drapeau noir qui pendait aux maisons, les rues désertes, les boutiques fermées, les fontaines taries, les statues de la Concorde voilées, le gaz refusant de s'allumer le soir, disait la ville indomptée. Telle Moscou dut apparaître à la grande armée napoléonienne. Parqué entre la Seine, le Louvre aux issues bouchées et un cordon de barricades bordant le faubourg Saint-Honoré, les Allemands semblaient pris dans un piège. Cette nuit-là avait une impression de grandeur. On regardait passer dans l'ombre d'une ville morte un fantôme d'armée. Les demi-tons incisifs du tocsin tombaient dans l'obscurité des rues désertes de la ville. La nuit s'acheva lourde.
Le 10 mars, la loi Dufort abolit le moratoire qui avait été accordé pendant le siège et rend exigibles immédiatement les loyers et les échéances. Dans un Paris encore éprouvé et où l'activité économique est très réduite, cette mesure provoque un mécontentement général. Le gouvernement supprime la solde journalière de 30 sous accordée aux gardes nationaux. C'est retirer aux pauvres une de leurs rares ressources. De plus, l'Assemblée nationale se méfie de la capitale et décide son transfert à Versailles. Pour Paris, c'est une insulte. Les canons sont toujours regroupés à Montmartre.
11 mars.
La journée du 11 fut très mauvaise pour Paris. Il apprenait du même coup sa décapitalisation et sa ruine. Vinoy supprimait 6 journaux républicains, dont 4, Le Cri du Peuple, Le Mot d'Ordre, Le Père Duchesne, Le Vengeur, tiraient chacun à 200 000 exemplaires. Le conseil de guerre, qui jugeait les accusés du 31 octobre, en condamnait plusieurs à mort, dont Flourens et Blanqui. Triple détonation qui frappait tout le monde. Bourgeois, républicains, révolutionnaires. 18 mars. Thiers, décidé à désarmer Paris, tente d'enlever les canons de la garde nationale par un coup de force en employant l'armée. À 3 heures du matin, les troupes de Versailles se déploient dans tout Paris, au Butte-Chaumont, à Belleville, à la Bastille, à l'Hôtel de Ville, au Luxembourg, dans le 18e, le quartier d'Or. La brigade Lecomte gagne la tour de Solferino et ne rencontre qu'un factionnaire, Turpin. Il croise la baïonnette. Les gendarmes l'abattent, courent au poste de la rue des Rosiers, l'enlèvent et jettent les gardes dans les caves de la tour. Il ne manquait que des chevaux et du temps pour déménager cette victoire. Pendant ce temps, les faubourgs s'éveillent. Autour des laitières, devant les marchands de vin, on parle à voix basse. On se montre les soldats. Les mitrailleuses braquées sur les rues adjacentes, sur les murs une affiche toute humide signée Thiers et ses ministres. Sans attendre leurs hommes, les femmes partent à la rencontre des soldats. Elles entourent les mitrailleuses, interpellent les chefs de pièce. « C'est indigne, qu'est-ce que tu fais là ?» Les soldats se taisent. Quelquefois un sous-officier « Allons, bonne femme, éloignez-vous !» Elles restent. Tout à coup, le rappel bat. Des gardes nationaux ont découvert 2 tambours au poste de la rue d'Oudeauville et ils parcourent l'arrondissement. À 8 heures, ils sont 300 officiers et gardes qui remontent le boulevard Ornano. Un poste de soldats du 88e sort, on leur crie.
En avant pour la République, pour la Commune et pour la liberté. Aux armes !
Gardes et linéaires franchissent le parapet. Un grand nombre d'autres gardes, la crosse en l'air, des femmes et des enfants débouchent sur le flanc opposé par la rue des Rosiers. Le comte, cerné, commande 3 fois le feu. Ses hommes restent l'arme au pied. La foule se joint, fraternise, arrête le comte et ses officiers. Au Butte-Chaumont, à Belleville, au Luxembourg, le peuple a également repris ses pièces. À la Bastille, la garde nationale fraternise avec les soldats. À 11 heures, le peuple a vaincu l'agression sur tous les points, conservé presque tous les canons et gagné des milliers de fusils. Les bataillons fédérés sont debout, les faubourgs se dépavent.
Cité française, existe une race de fer dont l'âme comme une fournaise a de son feu bronzé la chair. Tous ses fils naissent sur la paille pour palais, ils n'ont qu'un taudis, c'est la canaille. Eh bien, j'en suis. Ce n'est pas le pilier du bagne, c'est l'honnête homme dont la main par la plume ou le marteau gagne en suant son morceau de pain. C'est le père enfin qui travaille les jours et quelquefois les nuits. C'est la canaille, eh bien j'en suis. C'est l'homme à la face terreuse, au corps maigre, à l'œil de hibou, au bras de fer, à main nerveuse, qui sortant d'on ne sait pas où, toujours avec esprit vous raille, se riant de votre mépris. C'est la canaille, eh bien, j'en suis. C'est l'enfant dont la destinée force à rejeter ses haillons quand sonne sa 20e année pour entrer dans les bataillons. Cher à canon de la bataille, toujours il succombe sans cri. C'est la canaille, eh bien, j'en suis. Il fredonne et la Marseillaise, nos pères, les vieux vagabonds, attaquant en 93 les Bastilles dont les canons défendaient la vieille muraille. Que de trembleurs on dit depuis, c'est la canaille, eh bien j'en suis. Enfin, c'est une armée immense, vêtue en haillons, en sabots, mais qu'aujourd'hui la vieille France les appelle sous les drapeaux. On les verra dans la mitraille, ils feront dire aux ennemis, c'est la canaille. Eh bien, j'en suis.
Mars. Thiers, décidé à désarmer Paris, tente d'enlever les canons de la garde nationale par un coup de force en employant l'armée. À 3 heures du matin, les troupes de Versailles se déploient dans tout Paris, au Butte-Chaumont, à Belleville, à la Bastille, à l'Hôtel de Ville, au Luxembourg, dans le 18e, le quartier d'or. La brigade Lecomte gagne la tour de Solferino et ne rencontre qu'un factionnaire, Turpin. Il croise la baïonnette. Les gendarmes l'abattent, courent au poste de la rue des Rosiers, l'enlèvent et jettent les gardes dans les caves de la tour. Il ne manquait que des chevaux et du temps pour déménager cette victoire. Pendant ce temps, les faubourgs s'éveillent. Autour des laitières, devant les marchands de vin, on parle à voix basse. On se montre les soldats. Les mitrailleuses braquées sur les rues adjacentes. Sur les murs, une affiche toute humide signée Thiers et ses ministres. Sans attendre leurs hommes, les femmes partent à la rencontre des soldats. Elles entourent les mitrailleuses, interpellent les chefs de pièce. « C'est indigne, qu'est-ce que tu fais là ?» Les soldats se taisent. Quelquefois, un sous-officier « Allons, bonne femme, éloignez-vous !» Elles restent. Tout à coup, le rappel bat. Des gardes nationaux ont découvert deux tambours au poste de la rue d'Oudeauville et ils parcourent l'arrondissement. À 8 heures, ils sont 300 officiers et gardes qui remontent le boulevard Ornano. Un poste de soldats du 88e sort, on leur crie.
En avant pour la République, pour la Commune et pour la Liberté. Aux armes!
Gardes et lignières franchissent le parapet. Un grand nombre d'autres gardes, la crosse en l'air, des femmes et des enfants débouchent sur le flanc opposé par la rue des Rosiers. Le comte, cerné, commande trois fois le feu. Ses hommes restent l'arme au pied. La foule se joint, fraternise, arrête le comte et ses officiers. Au Butte-Chaumont, à Belleville, au Luxembourg, le peuple a également repris ses pièces. À la Bastille, la garde nationale fraternise avec les soldats. À 11 heures, le peuple a vaincu l'agression sur tous les points, conservé presque tous les canons et gagné des milliers de fusils. Les bataillons fédérés sont debout, les faubourgs se dépavent. Le comte fut conduit au Château Rouge où vint le rejoindre Clément Thomas, arrêté tandis qu'il inspectait les barricades de Montmartre en vêtements civils. Conduit du Château Rouge au poste de la rue des Rosiers, les généraux eurent surtout pour adversaires leurs propres soldats. L'entassement silencieux des tortures que permet la discipline militaire amoncelle aussi d'implacables ressentiments. Vers 4h30, une rumeur emplit la rue. Il n'y a qu'un cri. À mort! Des officiers de la garde nationale veulent lutter. Un capitaine garibaldien, un Hercule, se cramponne aux parois du couloir. On le meurtrit, on force l'entrée. Clément Thomas est précipité vers le jardin, derrière la maison. Les balles le suivent, il tombe face à terre, il n'est pas mort. Que les soldats du 88e ont brisé les croisées de la chambre du général Lecomte, l'entraînent dans le jardin où les balles le tuent. Aussitôt, les fureurs s'apaisent. 10 officiers sont encore là, personne ne les menace. Ils sont ramenés au Château Rouge, et la nuit venue, Jacquelart les met en liberté.
La population et la garde nationale en alerte se mettent à élever des barricades. Mais les membres du gouvernement quittent Paris et Thiers ordonne le retrait de toutes les troupes sur Versailles. Il publie un communiqué.
Le gouvernement de la République veut en finir avec un comité insurrectionnel dont les membres, presque tous inconnus à la population, ne représentent que les doctrines communistes.
Citoyens, le peuple de Paris a secoué le joug qu'on voulait lui imposer. Calme, impassible dans sa force. Il a attendu sans crainte, comme sans provocation, les fous et hontés qui voulaient toucher à la République. Cette fois, nos frères de l'armée n'ont pas voulu porter la main sur l'arche sainte de la liberté. Merci à tous. L'état de siège est levé. Le peuple de Paris est convoqué dans ses sections pour faire les élections communales. Notre mandat est expiré et nous vous le rapportons, car nous ne voulons pas prendre la place de ceux que le souffle populaire vient de renverser. Préparez donc et faites de suite vos élections communales et donnez-nous pour récompense la seule que nous ayons jamais espérée, celle de vous voir rétablir la véritable République. En attendant, nous conservons l'hôtel de ville au nom du peuple français, le comité central de la garde nationale. Pendant ce temps, Thiers travaille à isoler Paris du reste de la France. Par ordre du gouvernement, aucun objet de correspondance originaire de Paris ne doit être acheminé ou distribué, mais invariablement expédié sur Versailles.
Citoyens, le gouvernement fugitif à Versailles a cherché à faire le vide autour de vous. La province s'est trouvée tout à coup privée de toute nouvelle de Paris. Mais l'isolement dans lequel on a voulu vous mettre n'a pas réussi à empêcher le souffle révolutionnaire de se frayer un passage à travers toutes ses précautions. Le comité central a reçu hier et aujourd'hui plusieurs délégations des villes de Lyon, Bordeaux, Marseille, Rouen, qui sont venues savoir quelle était la nature de notre révolution et qui sont reparties au plus vite pour aller donner le signal à un mouvement analogue qui est préparé partout. Vive la France, vive la République!
Le président du Conseil du gouvernement, chef du pouvoir exécutif. Le gouvernement tout entier est réuni à Versailles. L'Assemblée s'y réunit également. L'armée, au nombre de 40 000 hommes, s'y est concentrée en bon ordre sous le commandement du général Vinoy. Toutes les autorités, tous les chefs de l'armée y sont arrivés. Les autorités civiles et militaires du département n'exécuteront d'autres ordres que ceux du gouvernement légal résidant à Versailles, sous peine d'être considéré comme en état de forfaiture.
Le gouvernement n'a abandonné Paris qu'afin de conserver l'armée et de ne pas ajouter un malheur de plus à tous ceux qui nous accablaient. Mais que l'émeute le sache bien, si l'Assemblée est à Versailles, et je l'ai dit pour ma part, c'est avec l'esprit de retour pour combattre l'émeute et la combattre résolument.
Le 22 mars, les partisans du gouvernement régulier, les hommes de l'ordre non contents de conspirer à Versailles, essayèrent à Paris une émeute contre-révolutionnaire. À midi, ils grouillent sur la place de l'Opéra. À une heure, un millier de beaux boursiers, journalistes, anciens familiers de l'Empire descendent de la rue de la Paix au cri de « Vive l'ordre !» Leur plan est de forcer la place Vendôme sous l'apparence d'une manifestation pacifique et d'en chasser les fédérés. Deux gardes nationaux détachés en sentinelle sont désarmés et maltraités par ces pacifiques manifestants. Les fédérés de la place Vendôme accourent et se disposent en ligne à l'entrée de la rue de la Paix. Ils ne sont que 200, toute la garnison de la place. Les réactionnaires heurtent la première ligne. Les seconds rangs de la manifestation poussent les premiers, essaient d'enfoncer les fédérés et, désespérant de les étourdir, tirent leurs revolvers. Au cri de « Vive l'ordre !»« À bas le comité !»« À bas les assassins !» Quelques coups de feu partent et blessent mal journal du comité central. Bergeret fait signe au tambour. 10 fois les sommations recommencent. À la fin de la 10e sommation, de nouveaux tirs de revolvers partent de la foule et atteignent les premières lignes de fédérés, tuant 2 d'entre eux et en blessant 7 autres. Alors, les gardes nationaux ripostent. Une de Georges, des cris, au silence. La rue de la Paix se vide en 5 secondes. Une 10aine de corps, des revolvers, des cannes à épées, des chapeaux tachent la chaussée déserte, aveuglante de soleil. Nombreux sont les fédérés à avoir tiré en l'air. Qu'ils eussent visé, tiré seulement à hauteur d'homme, il y aurait eu 200 victimes. Dans cette masse compacte, tout coup devait porter. À 4 heures, les compagnies de l'ordre apparaissent, résolues, le fusil à l'épaule, et occupent le quartier de la Bourse. Les réactionnaires prennent les mairies du 9e et du 6e, délogent les fédérés de la gare Saint-Lazare, gardent les abords des quartiers occupés, arrêtent les passants. Il y a désormais une ville dans la ville. Les maires d'arrondissement, opposés aux élections voulues par le comité central sont renforcés dans leur position par cette offensive des bataillons de l'ordre. Ils se constituent en permanence à la mairie du deuxième.